Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Il y en a qui disent « Ah oui, mais il ne faut pas dire qu'on n'est plus dans un pays démocratique. » Quand la seule solution que nous propose un gouvernement pour faire respecter ses choix, c'est de réprimer dans la violence, on n'est pas loin de la non-démocratie, voire comportement fascisant.
Le capitalisme, c'est la crise, le chômage et la guerre. L'issue, c'est les pouvoirs de la classe ouvrière.
C'est nous qui portons le drapeau de la classe ouvrière internationale. La classe ouvrière française brandit le drapeau des luttes ouvrières internationales pour les travailleurs du monde entier. Et c'est pour ça aussi que Macron, lui, porte le drapeau des intérêts du grand capitalisme international. Il est commis par le grand capital pour ça. C'est pour ça que la lutte est vachement âpre. S'il échoue ici en France...
Ce sera un très mauvais exemple.
Une défaite aussi pour la classe capitaliste internationale. Parce que qu'est-ce qui produit la richesse du capitalisme ? C'est l'exploitation du travail. En France, il faut impérativement baisser le coût du travail de façon à ce qu'il ne reste pas une référence pour les autres pays d'Europe et du monde. La lutte va être difficile et longue. Je pense qu'elle demandera des méthodes de combat qui ne sont plus utilisées depuis 1917 ou 1793. Il va falloir que des têtes tombent dans le panier de sûr. C'est symbolique. Hein. Hélas, on ne peut plus fusiller les salopards d'exploiteurs. Mais il faudra de toute façon les dégommer. Les gens prennent conscience de leur force, en fait. Ils sont le nombre.
Remonté à bloc et en pleine forme révolutionnaire, notre copain André, notre prof d'histoire géo préféré qu'on retrouvera pour clore cette spéciale 1er mai 2023. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. C'est parti pour une heure d'émission à l'arrache, dans la rue, avec manifestants et manifestantes de ce 1er mai historique. On a croisé plein de copains-copines parce que la fête des travailleurs et des travailleuses, ça sert aussi à ça et aussi à se compter. Et là, on était bien nombreux. Ça change votre serviteur de ces quelques lugubres 1er mai des années 2000 où on était à peine une poignée, dont la moitié en déambulateur, et parfois sous la pluie. Là, ça bougeait et il faisait beau. Mais avant de nous rendre au défilé de ce 1er mai 2023, on va vous passer un son qu'avec toutes ces récentes manifs, on n'a pas encore eu le temps de vous proposer. C'était le 18 février 2023, et ce jour-là, dans ma ville de province, il y avait deux manifs. Une énième manif contre la déforme des retraites, et une autre manif anti-nucléaire, celle-là. On en parle avec mon copain Jean-Paul. Salut Jean-Paul.
Salut, bonjour.
Il y a une autre manif.
Prévue de longue date, une manifestation anti-nucléaire. Dans le cadre de consultation de la Commission nationale de débat public, il devait y avoir un débat public. Mais vu les déclarations de Macron, vu les déclarations du Sénat, la Commission nationale de débat public abandonne les consultations. Et nous, anti-nucléaire, nous pensons que d'un côté, on traversait toute donnée démocratique et de l'autre côté, comme d'habitude, le gouvernement n'a pas besoin des citoyens pour décider tout seul de ce qu'il doit faire, et notamment en matière de nucléaire.
Alors que les cours d'eau, les rivières, etc. connaissent des pénuries, j'ai entendu le président de la République dire qu'il voulait coller des mini-centrales nucléaires le long de la Loire. Mini, ça semble moins grave. Les usines nucléaires s'est refroidies par de l'eau de rivière, et que quand il n'y a pas de l'eau dans les rivières, c'est compliqué de refroidir.
Les small réacteurs, là, les SMR, là, oui, effectivement, c'est toujours dans la valise, là, mais là où ils seront positionnés, on n'en sait rien. Quantité non plus. Par contre, au niveau des EPR, type Flamanville, on est à peu près sûr que bon, ils en veulent déjà 6, 2 à Penly déjà. La question de l'eau est centrale. Oui, il y a puisement de l'eau, par exemple à Chinon, pour refroidir en cas d'accident nucléaire, on puise sur la nappe phréatique parce que la Loire ne suffirait pas. Il y a des moments où la Loire ne suffirait pas.
Donc, mais ça tombe bien, comme l'agro-industrie n'est pas du tout en train de vider les nappes phréatiques pour alimenter les méga-bassines.
C'est absolument...
On court absolument aucun risque d'avoir des nappes phréatiques vidées.
Donc, pour nous, anti-nucléaire, au niveau des consciences générales, la question de l'agriculture, l'agro-agriculture, avec les intrants, avec les pesticides, avec l'épuisement de l'eau et tout ça, c'est un problème qui se pose de plus en plus.
Qui va se poser gravement en 2023, voilà. Parce que j'ai interviewé une hydrologue là il n'y a pas longtemps, qui disait que les pénuries d'eau au robinet, c'est pas dans une poignée d'années, c'est l'été prochain. L'été prochain, on risque d'être rationné au robinet. Hein.
Absolument. Il y a une conscience qui est en train de se forger, mais au point de vue nucléaire, et nous qui habitons sur le bord de la Loire, avec ces cinq centrales quand même, hein, la Vienne, les deux réacteurs de Civaux, et la Loire avec Dampierre, Belleville, Saint-Laurent-des-Eaux et Chinon, le puisement de l'eau, le réchauffement de l'eau, la pollution de l'eau, ça, c'est, on n'en parle pas, quoi. Au niveau des consciences, il n'y a pas encore cette prise de conscience. Ben, les centrales nucléaires sont quand même pas normales. L'eau que l'on boit à Tours, elle est triciée, c'est-à-dire qu'il y a un atome, le tritium, chacun d'entre nous buvons tous les jours du tritium. Normalement, bon, ça passe au travers comme dans beaucoup
comprends,
de choses.
Je trouvais que tu étais un garçon brillant, surtout la nuit.
T'as remarqué.
Voilà, j'explique soudain ce côté phosphorescent que tu peux avoir quand le crépuscule est tombé.
On n'a plus besoin de porter des gilets, on nous voit. Donc oui, effectivement, il y a des radionucléides dans l'eau que l'on boit. Pour des personnes qui sont plus fragilisées pour X raisons, il est possible que ce tritium se fixe à un endroit du corps, la thyroïde par exemple, le foie, entre autres, et fabrique des éléments cancérigènes.
Quand j'entends à la radio dire que le nucléaire est une énergie qui ne coûte pas cher, bon, s'il y a des générations futures, c'est elles qui vont payer les factures. Hein, ça met des centaines de milliers d'années à perdre en nocivité. D'ailleurs, les gens de Bure en savent quelque chose.
Oui.
Donc le nucléaire, en fait, arrêtez de penser que c'est pas cher. Pas vrai.
Nucléaire est coûteux. De l'extraction dans les pays généralement coloniaux, enfin néo-coloniales, tels que le Niger. Ça vient du Canada aussi et d'Europe centrale. Ensuite, la construction, hein, les bétons, plomberies... tours aéro-frigérantes et ainsi de suite, qui polluent, qui ont aussi des gaz à effet de serre. Ça coûte énormément cher. Après, le refroidissement, il faut penser à la hague, les piscines. Quand les crayons sont sortis d'une centrale nucléaire, il faut les refroidir généralement 2 ans. Hein. Et c'est le minimum, hein, parce qu'autrement, ça chauffe de trop. On ne peut pas les enfouir, on ne peut rien faire là. Il faut les refroidir, plus les autres déchets qui sont prévus pour être enfouis 300 mètres ou 400 mètres sous terre. Tout ça, ça coûte un pognon de dingue qui pourrait être fait pour des étudiants qui ne bouffent pas, qui n'ont pas le moyen pour se loger. Ça peut être pour la santé, ça peut être pour le service public. On voit bien que cet argent-là, il est dépensé inutilement ou alors il pourrait être utilisé à la conception d'énergie renouvelable qui, elle, même si une pale d'éolienne, ça ne se recycle pas si facilement que ça, ça se recycle autrement que l'uranium, qui a une durée de vie qui peut avoir 200 000 ans. Quoi.
Dans la région, là, dont tu le disais, on a plein de centrales nucléaires, et notamment celle de Chinon, et ça m'est arrivé de croiser des personnels ou d'anciens personnels de la centrale de Chinon. Il était beaucoup question d'abord non seulement de maltraitance des personnels, mais aussi de sous-traitance et de tuyaux rafistolés, bouts de ficelle et de machin. Oui. Est-ce que j'ai pas eu de bol? Mais alors, ça m'est souvent arrivé de tomber sur des gens qui travaillent dans cette centrale de Chinon, là, ou d'Avoine, déprimés jusqu'à l'os. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup de dépressifs dans ce milieu-ci, qui a l'air en fait très pathogène, très anxiogène. J'en suis là sur la maintenance, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en prend tellement pas soin de ces équipements-là, on fait tellement appel à la sous-traitance. J'entends qu'il y a des commandos comme ça, de précaires, là, qu'on envoie bosser dans les centrales, donc se faire copieusement irradier. Ça ne semble pas du tout fiable de confier des bombes atomiques civiles, si j'ose dire, à des gens en sous-effectif, pas forcément bien qualifiés, qui apparemment ont l'air de mal vivre leur travail.
Non mais absolument, c'est un point crucial. En fait, c'est à deux niveaux, cette sous-traitance. Premier niveau, c'est effectivement le personnel. Alors, il y a deux sortes de personnel. Il y a ceux qui sont EDF et les autres. Donc, ceux de EDF, en fin de compte, sont de plus en plus amenés à encadrer ceux qui vont au charbon. Et donc, qui sont mal payés et qui ne prennent pas forcément toutes les mesures de sécurité qu'il faut. Quoi. On voit que quand même dans les centrales, il y a beaucoup... Ça augmente le nombre de conneries. Quoi. Le nombre de conneries qui fait risquer la vie des travailleurs du nucléaire. Et le deuxième élément sur la question de la sous-traitance, c'est le fait de perte de connaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de transmission véritable de ce qu'est du fonctionnement d'une centrale nucléaire vis-à-vis de sa sûreté et de sa sécurité. Il y a une perdition. On a bien vu que pour réparer les tuyaux corrodés à Civaux, à Chinon et ailleurs, ils n'ont pas fait appel à une sous-traitance française ou aux agents de l'EDF. Non, ils ont appelé les Américains, des Américains. parce qu'eux, ils ont un savoir-faire. On en est là.
Les Américains, ils ont eu 3 Miles Island. Hein.
Absolument.
Qui était une catastrophe nucléaire. Hein.
Et absolument, mais c'est ça le paradoxe, c'est ça la folie. C'est-à-dire que, bon, en fin de compte, en France, on peut être à 2 pas d'une catastrophe et on s'aperçoit que la connaissance, c'est perdu. Ce n'est pas que les travailleurs là qui sont en insécurité, mais c'est toute une population qui peut se retrouver en insécurité pour des conneries.
Gamin, j'ai grandi avec la radio qui nous disait qu'on risquait une apocalypse nucléaire, une troisième guerre mondiale. Donc on baignait là-dedans et c'était la grande terreur. Et puis avril 86, il y a Tchernobyl. Je pourrais te raconter par le menu cette journée parce qu'elle m'a marqué évidemment en fait. Et puis en 2011, on a eu Fukushima. L'impression très subjective en fait que c'est comme si on s'accoutumait un petit peu à ce qui est des catastrophes nucléaires. C'est bon, regardez, on a eu Tchernobyl, bon, il y a eu des cancers de la thyroïde dans les Vosges, en Corse, des gens qui se sont fait irradier, malgré ce que nous racontait la télé, hein, que le nuage nucléaire ukrainien était francophile et s'était arrêté à nos frontières. Et puis, ben, on a eu Fukushima, alors oui, les pauvres Japonais, mais finalement, j'ai l'impression que ça s'installe dans les têtes de, bah ouais, il peut y avoir des catastrophes, la Terre continue de tourner, en fait.
Oui.
Est-ce que tu partages ce sentiment
mais c'est pas qu'un sentiment, mais ce n'est pas que sur le nucléaire. En fin de compte, il y a un terme maintenant qui devient à la mode, c'est la résilience. Paraît-il qu'en fin de compte, on peut se faire fracasser la tête, mais qu'on peut survivre quand même à ça, selon les individus, quoi. Et il faut être vraiment fort, il faut être capable d'eux. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'en sort, quoi. Eh bien, en fait, il faut s'habituer à des catastrophes. Bon, on voit bien que dans l'industrie, il y a des catastrophes, mais dans l'industrie nucléaire aussi, puisque Tchernobyl, effectivement, et puis Fukushima. Il faut s'habituer à dire, bon ben voilà, je vis dans un environnement dangereux, donc à moi de faire attention. Si il m'arrive quelque chose, c'est que je n'ai pas fait attention. En fait,
ou alors c'est comme ça.
Voilà, c'est comme ça.
Aujourd'hui, c'est comme ça.
Ben non, pour nous, cette résilience-là, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tchernobyl, on l'a vu, il y a des chars qui ont traversé la zone et qui ont été contaminés. Et à Fukushima, il y a des gens, ils n'ont plus le loisir, en fin de compte, d'habiter ailleurs. Ils reviennent habiter dans la zone contaminée, ils ont avec eux un dosimètre pour mesurer sans arrêt la radioactivité. Et le jour où ils ont un cancer ou quelque chose comme ça, on pourra leur dire « mais attends, non, t'as pas fait attention ». C'est d'une violence. La petite musique, bon, je suppose qu'on aura la même musique sur le climat. Et qu'est-ce qu'on y peut, hein, d'accord.
Ah, puis des réchauffements, il y en a toujours eu.
Il y en a toujours eu, enfin bref, il y a cette petite musique. Bon, à toi de te débrouiller pour faire ta réserve d'eau. Pour manger convenablement, si t'as les moyens, tu peux, mais si t'as pas de moyens, bah, tu crèves, quoi.
Petit détail sur le mot résilience. Voilà, on sait que le pouvoir détourne toujours des mots, hein, faire dire aux mots ce qu'ils ne veulent pas dire. Et j'avais entendu à la radio le créateur du concept de résilience, Boris Cyrulnik, qui s'insurgeait contre l'usage qu'on a fait de son concept. Il est très employé, notamment par Macron, pour dire « on vous écrase la gueule ». Bah vous n'avez qu'à être résilient parce que c'est comme ça, etc. Et j'avais entendu Cyrulnik disant « Attendez, quand j'ai pondu le concept, c'était pas pour que la droite capitaliste s'en empare pour écraser les gens. »
Ils utilisent un langage complètement détourné et qui fabrique en fin de compte cette insécurité totale, quoi. Je rappelle que...
Tu t'en ailles rejoindre les gens de Bure.
On va faire une manifestation à 16h contre justement la mascarade de débat public qui s'est installée, contre le fait que, bon, en fin de compte, on nous impose encore une fois, des EPR, donc la continuation de l'industrie atomique pour les prochaines générations, c'est une catastrophe. On est là pour dire tout ça. On abandonne cette industrie mortifère qui est d'un autre siècle. Voilà, c'est terminé et on met l'argent sur des énergies renouvelables et non plus sur l'énergie atomique complètement destructrice et mortifère.
Et quand on aura pris le pouvoir, on mettra Macron et sa bande sur des vélos d'appartement, puis ils nous en feront de l'énergie verte.
Exactement, bravo, bonne idée, quoi. Et ça, c'est le soft, hein. Est-ce qu'on pourrait être pire?
Non, on est gentil maintenant.
Ah oui, on est trop gentil. C'est la résilience qui cause.
Oui.
On ne peut plus maintenant faire des choses pas possibles. Hein.
pendant qu'on flippe légitimement sur la retraite, les horreurs écologiques continuent. Nucléaire et autres méga-bassines dont on n'a pas fini de parler dans cette émission. En attendant, retour sur cet historique 1er mai 2023 pour une émission sans fioritures, montée à l'arrache, à la punk, parce que c'est aussi ça la joie du DIY, le « fais-le toi-même ». Arrivé en avance, une heure avant le départ du cortège, c'était le jour pour donner la parole à des militants de Hello, lutte ouvrière, dont on entend des slogans depuis des années dans cette émission, mais finalement jamais les personnes qui les disent. Bah, c'est chose faite aujourd'hui avec Étienne et ses camarades.
Donc on est une heure avant la manifestation, au lieu de rendez-vous. Je tombe sur Étienne, coffre arrière de sa voiture ouvert, et il est en train d'enfiler un drapeau rouge, une banderole sur un truc qui ressemble un peu à un manche de pioche quand même, non, en moins épais. Bonjour Étienne.
Bonjour, bonjour. C'est simplement des piquets pour tenir la banderole, quoi. On a trois piquets pour tenir une grande banderole qu'on a décidé. Bon, là, on est militants de lutte ouvrière, on a décidé de faire un cortège. Bon, dans tout le mouvement des retraites, on a été dans le mouvement, dans les cortèges syndicaux, oui, etc. Et au niveau du 1er mai, on considère que bon, on a des choses un peu spécifiques en tant que lutte ouvrière à défendre, entre autres l'internationalisme, qui est une tradition du mouvement ouvrier. Donc à cette occasion, on décide un peu de faire un cortège avec notre propre banderole. Et
puis, il y a marqué quoi sur la banderole ?
Guerre, crise économique, crise climatique, une seule solution, renverser le capitalisme. Donc ça annonce vraiment la couleur et tout, c'est... voilà. Crise économique, crise climatique.
Ce qu'on appelle l'écologie a fait irruption, en fait, dans vos revendications.
C'est une vue extérieure de penser cela. Mmh. Nous, on se réclame du courant marxisme. Et Marx, dès 1848, oui, il disait, si on laisse le capitalisme en place, etc., il sera capable de bousiller la planète et tout, parce qu'il y a le profit et tout. Et nous, c'est nos références, etc. Et tout. Et nous, on pense qu'effectivement, pour lutter contre ce danger de la planète qui peut effectivement disparaître, etc. et tout, bah, il faut effectivement remettre en cause le système capitaliste.
Ah, tu n'es pas en accordance avec les analyses de gens qui se prétendent écologistes et qui pensent que l'écologie est compatible avec l'économie de marché ?
Il y a des gens réformistes et tout qui pensent qu'on peut améliorer le problème de la planète sans contester le capitalisme. Non, nous, on ne pense pas du tout ça. On n'est pas d'accord non plus avec la façon, hein, sur ce terrain-là, d'un certain nombre de gens, de faire porter la responsabilité de l'évolution de cette planète sur la population, en disant « faites attention, etc., c'est de votre faute et tout ». Bon, c'est facile, mais le capitalisme, il peut s'adapter effectivement à ça, il s'adapte à beaucoup de choses. Si on se contente de financer et de donner du pognon au patron pour qu'ils mettent un peu de verre dans leur discours et tout, bon, en quoi on aura changé quoi que ce soit ?
Je vois que tu n'utilises pas cet anglicisme... greenwashing, hein, comme disent les gens modernes. Ça, moi, américain, pas... t'aimes pas ça?
C'est peut-être mon manque de culture, tout simplement.
Ça m'étonnerait. C'est toujours Nathalie Arthaud oui, chez vous?
Bah oui, c'est une certaine continuité de nos idées. Ouais. On a eu longtemps Arlette Laguiller oui, qui a défendu ces idées-là et qui a quand même marqué sa période en étant la première femme candidate à des élections présidentielles. Bon, d'habitude, les présidents présidentielle, c'est réservé aux politiciens, etc. Et en tant que travailleuse, en tant que femme et tout, bon, aujourd'hui, on parle de parité, etc. Bon, ok, c'est pas un scoop, mais à l'époque, le faire une petite organisation comme nous en 74, bon, et ça, on en est plutôt fiers, parce que ça fait partie de notre combat aussi, que le monde du travail montre que... on produit tout dans cette société, bah, on est capable aussi de la diriger. Hein. Donc les travailleurs, ils ont effectivement non seulement leur mot à dire, mais on pense que ça, c'est l'avenir de l'humanité, que les travailleurs dirigent la société. Et puis que les femmes, effectivement, il y a une oppression, etc. Et que c'est légitime qu'une organisation comme la nôtre fasse en sorte que bah, les femmes se mettent en avant et défendent le combat de la libération sociale, féministe et économique, quoi.
Nous ne sommes pas dupes de ce système électoral truqué où on nous donne le choix entre un bourgeois de droite et finalement un bourgeois de gauche qui se respectent mutuellement, qui jouent le jeu du capitalisme. Nous, nous représentons des gens qui ne joueront pas le jeu.
Une personne comme Arlette Laguiller a toujours eu une cote de sympathie. Je suis étonné que quelqu'un qui a un capital sympathie fasce si peu aux élections. Comment t'analyses ça, Étienne? Les gens, ils aimaient l'employé de banque qui était Arlette Laguiller. Et Nathalie Arthaud est un personnage éminemment sympathique et qui parle juste et vrai. J'ai jamais voté pour elle, je te promets.
Mais entre le courant de sympathie, parce qu'on représente des idées, quand les gens les écoutent et tout, qui sont des idées de bon sens, de la contestation, parce qu'ils subissent aussi cette société. Et là, de ce point de vue-là, on peut avoir des échos de la population, etc. Et une forme de sympathie qui dépasse le score électoral. Parce que le score électoral, c'est un peu le problème. On a enfermé les gens dans le raisonnement que changer la société et tout, ça passe par le bulletin de vote, etc. C'était pas une tradition du mouvement ouvrier. Les élections faisaient partie d'un événement politique, etc., où les gens pouvaient utiliser leur bulletin de vote pour voter, comme ils disaient à l'époque du mouvement ouvrier, le plus rouge possible. Il y en a même qui rajoutaient en disant parce qu'ils auront toujours le temps de changer de couleur en arrivant au gouvernement. Bon, ces idées-là, elles ont été, par le courant réformiste, par le PC, etc. et tout, elles ont été introduites et généralisées un peu dans le monde du travail. On voit l'aberration aujourd'hui de l'électoralisme. Les réformistes en sont rendus à appeler à voter, par exemple, Chirac contre Le Pen. C'est l'électoralisme poussé jusqu'au bout. Non, l'émancipation du monde du travail, c'est pas le terrain électoral. Le terrain électoral, c'est pour désigner des représentants qui vont gérer le système capitaliste. Le monde du travail, lui, c'est effectivement transformer la société, se servir de sa force économique dans le pays et à l'échelle internationale pour effectivement contester la gestion et exproprier ceux qui ont le pouvoir à l'heure actuelle, les Dassault, les LVMH, Arnault et ces grands groupes capitalistes qui, eux, se font pas élire, mais c'est eux qui ont le pouvoir. Macron, c'est un serviteur et un représentant fidèle de cette classe sociale, mais la réalité du pouvoir, elle est ailleurs. Donc nous, on défend l'idée que l'électoralisme... Et de ce point de vue-là, nos idées, elles peuvent avoir une sympathie, mais au moment de l'électoralisme, il faut trouver des gens, entre guillemets, dits utiles, qui peuvent aller au gouvernement. Et nous, on dit, on défend des idées dans ce cadre-là, et on ne dit pas voter pour nous pour aller au gouvernement. Bon, j'étais un peu long.
Alors, je t'empiète dans ton travail. Sur les trois piquets de la bannière, tu es en train toujours d'enfiler le deuxième. Tout critiquable que cette formation politique soit et que son porte-parole soit, je vote Front de Gauche, France Insoumise et trucs comme ça, parce que je me dis, il n'y a que ces gens-là qui peuvent foutre une pilée aux droites en face à face, etc. Mais je comprends bien que ce n'est pas votre logique à vous chez LO.
Ce n'est pas notre logique. Bon, là, on parle de la France Insoumise, etc. et tout. Mais moi, je suis de la génération où j'ai commencé à militer après 68, dans les années 70 et tout. Le PC, il a passé son temps à cette époque-là à convaincre pour arriver au gouvernement. Il fallait un gouvernement de gauche. Alors, on choisissait Mitterrand parce qu'il était acceptable par les autres, etc.
C'était bien que décoré par Pétain pendant l'occupation.
Dans le PC, on disait ouvertement, c'est un politicien de la bourgeoisie, 14 fois ministre sous la droite, etc.
La France,
mais
tout ça.
Il ne faut pas le dire. Arlette Laguiller, elle l'a dit en 1974.
Que les travailleurs ne soient pas réduits pour ne pas voter pour la droite, à s'abstenir ou à accepter Mitterrand sans discuter ni ce qu'est l'homme, ni ce qu'est son programme, ni ce que sera sa politique s'il est élu.
Et le PC, il a roulé pendant des années pour cette stratégie, au point que même ses militants et même son électoral a laissé tomber au bout d'un moment pour voter utile, quitte à voter, fallait voter directement Mitterrand, alors que le PS, dans les années 69, faisait un score minable, il faisait 5%, de fer, etc. Et tout. Bon, et là, cette politique-là du PC, elle a désarmé.
Et pourtant, c'est incroyable, parce que c'était pas la première fois dans l'histoire de France que le PCF se faisait avoir par les soi-disant socialos. Il s'était déjà fait couillonner par les SFIO.
Nous, on pense pas que ça soit se faire avoir. On pense que c'était la seule stratégie qu'ils avaient, parce qu'ils avaient abandonné, effectivement, le combat révolutionnaire, quoi. Ils avaient abandonné, ils s'étaient constitués dans les années 20, quoi.
T'as réussi à enfiler le deuxième truc.
J'espère que je ne me suis pas planté.
Monsieur le 1er mai, puis-je avoir la parole, s'il vous plaît? Bonjour. Bon, moi, je me présente rarement à des manifestations, mais là, il y en a vraiment besoin.
C'est comment votre prénom ?
C'est Mehdi.
Bonjour, Mehdi.
Bon, j'ai toute une histoire. Bon, je suis d'origine différente, donc je ne veux pas insister là-dessus. Mais par contre, voilà, la France n'en décolère pas. C'est le mot essentiel. Il faut continuer à se battre parce qu'il y a des inégalités, même si on est un pays qui prospère.
Vous manifestez pas souvent, vous ?
Je manifeste parce que j'ai des opinions politiques, mais j'ai pas vu de bonnes raisons de manifester depuis pas mal de temps. Mais là,
et
ces
là,
derniers temps...
1er mai 2023, vous êtes dans la rue.
Je me mobilise, effectivement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Bonne journée, Mehdi. Et pendant ce temps-là, tu as réussi à enfiler le troisième piquet sur cette grande banderole. Bon. Je veux te faire un aveu, Étienne, bien que n'ayant jamais voté Hello, quand en manifestation, parce que je couvre les manifestations dans cette ville depuis 25 ans, ça fait un quart de siècle qu'on se croise, toi et moi, les slogans de Hello, c'est ceux dont je me sers dans l'émission parce qu'ils sont très clairs en fait, c'est toujours limpide, pour faire tu vois, des intermèdes entre les petits bouts d'interview, parce que c'est très compréhensible ce que vous dites, et donc je dis, bon tiens, j'ai besoin de petites pastilles politiques explicites, je vais aller voir ce que dit Hello. Non mais vous êtes forts les ouvriers, hein. Vous arrivez à faire de la rhétorique tout en montant une bannière, bravo.
Merci.
Bonne manif, Étienne.
Merci, merci.
Partager les baisers, les cerises, et même si c'est des bêtises, que c'est gentil, que c'est beau.
Ça faisait bien longtemps que j'avais pas écouté cette chanson de Souchon qui me paraissait sympathique quand elle était sortie, pour réaliser aujourd'hui que les paroles sont débiles et insultantes. La lutte anticapitaliste, la solidarité internationale de la classe ouvrière, le temps des cerises, c'est tout, sauf des bêtises, et Alain Souchon est un crétin politique. Mais comme lui, j'aime bien les révolutionnaires de lutte ouvrière, pour lesquels j'ai jamais voté, et d'ailleurs ça tombe bien, ils s'en foutent.
Il y a le camarade référence slogan chez Hello qui est Jean-François. Bonjour Jean-François.
Oui, mais c'est pas moi qui les ai, c'est Anne qui les apporte. C'est en partie sous l'an dernier parce que la société, à part s'aggraver d'un pas de plus chaque année, les problèmes sont les mêmes. Et au bout du bout, c'est le système, c'est les dirigeants. Macron a à juste titre focalisé la haine, on peut dire, de la population travailleuse. Mais d'un autre côté, il ne faut pas avoir l'illusion qu'il suffirait de dégager Macron, on sera content pendant quelques heures ou quelques jours, ça fera plaisir de voir sa mine déconfite. Il faut dégager sa réforme si on peut, c'est-à-dire le faire reculer là-dessus, bien sûr. Mais de toute manière, les attaques, on les a tous azimuts, on les a sur les salaires.
Oui, qui s'appelle Macron, Sarkozy ou Hollande, c'est la même chose.
D'ailleurs, Macron, il est tombé des bagages de Hollande. Bon. Et nous, à l'occasion du 1er mai, bien sûr, on évoquera dans nos slogans la bagarre en cours sur les retraites. C'est une des attaques. Ce qui est important, c'est qu'elle a quand même provoqué une réaction. Et c'est une première victoire, déjà, d'avoir été capable de s'unir, de se mobiliser.
Même la CFDT est là, c'est formidable.
Mais parce que les dirigeants de la CFDT, ben d'accord, on sait ce qu'ils sont. Je dirais que les bureaucraties syndicales, on n'a pas une estime considérable pour les hautes bureaucraties syndicales, je ne parle pas des militants, on milite syndicalement, nous. Mais les syndiqués CFDT, et j'ai vu des femmes enseignantes dans le privé qui étaient à la CFTC et qui partageaient la même aspiration à ce que les travailleurs vivent mieux, toutes catégories confondues, et qui étaient heureuses d'être là. Et la révolution dans les urnes, c'est pas chez nous qu'elle est. Quand on parle de la révolution, on parle de la révolution sociale. Ça veut dire l'expropriation des capitalistes, ça veut dire des luttes, et un jour une révolution, bien sûr. Mais la révolution dans les urnes, ça... Anne, s'il te plaît.
Bonjour, Anne. Dans les manifestations, je vais toujours glaner les slogans de Hello parce que c'est toujours très clair et très explicite.
C'est une très bonne idée.
Cette année, Jean-François me disait que vous avez recyclé des slogans de l'an dernier parce que de toute façon, le mal reste le même, le système capitaliste,
exactement.
On est bien d'accord.
Et puis nous, on tient à affirmer notre internationalisme et quelque chose qui reste une constante, c'est la nécessité de renverser le capitalisme et le rôle de la classe ouvrière.
Alors les slogans crus, 1er mai 2023, quels sont-ils, s'il te plaît?
À la fois, il y a quelques slogans qui sont plus en lien avec l'actualité la plus récente sur les retraites et puis les salaires, parce que c'est vraiment le point noir actuellement qui suscite des mobilisations également. Et puis on a des slogans plus généraux comme le capitalisme, c'est la crise, le chômage et la guerre. L'issue, c'est les pouvoirs de la classe ouvrière. On a un deuxième slogan qui dénonce le nationalisme diviseur des travailleurs. Entre nous, pas de frontières, une même classe ouvrière. C'est un slogan qu'on a scandé déjà depuis de longues années dans les manifestations du 1er mai, où c'est le bon moment pour affirmer l'internationalisme, quoi, et cette nécessité d'union de la classe ouvrière. Voilà, on a aussi un slogan contre la guerre, mais pas sur le plan pacifiste, mais sur le plan de la dénonciation du capitalisme. Le capitalisme sème la guerre et la misère. Qu'ils soient d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs, nos frères migrants doivent pouvoir circuler et s'installer ici. On fait le lien entre ce qui se passe, entre autres en Afrique et dans bien des pays qui sont ravagés par les dégâts de l'impérialisme et des guerres qui en sont les conséquences, et évidemment les migrations et...
L'écologie et l'environnement aussi ont fait leur apparition dans vos mots d'ordre et slogans.
Tout à fait, oui. Donc là, on le met sur notre banderole cette année, parce que c'est vrai que tout le monde perçoit ce problème d'une façon tout à fait vive. Et en plus, de la même façon que l'absence de solution pour ce qui est des guerres, pour ce qui est des crises économiques qui sont récurrentes, dont on ne sort pas, la crise écologique ou climatique... Eh bien, on n'en sortira qu'à condition de renverser le capitalisme et de pouvoir poser ensemble les problèmes d'une autre façon que soumis aux nécessités du capital.
C'est un truc qui m'a assez frappé dans le mouvement social de cette année 2023, là, c'est que beaucoup de gens font le lien, lutter contre les méga-bassines ou lutter contre la déforme des retraites, en fait, c'est la même chose. Convergence des luttes.
C'est une très bonne chose, qu'il y ait une conscience du fait que derrière tout ça, il y a un seul et même problème, qui est l'organisation capitaliste de cette société, et en particulier, poser le problème de qui dirige. Et c'est vrai que sur le plan de l'eau, qui contrôle l'eau dans notre société, on peut poser ce problème-là exactement... comme qui contrôle le secteur agroalimentaire en général, qui contrôle l'économie, qui contrôle les banques, le pouvoir est entre les mains de qui? Si cette conscience-là, elle progresse du fait que derrière différents problèmes, il y a une seule et même cause qui est le type d'organisation de notre société, je pense que ça doit nous mener tous ceux qui réfléchissent à ça, vers une conscience commune de devoir lutter contre ce système capitaliste. Alors nous, on pense que la solution de ça, c'est le communisme, et c'est ce qui nous distingue d'autres courants politiques pour qui, je ne sais pas où est la solution, mais nous, je pense qu'il faut qu'on dise clairement que la solution, elle n'est pas dans une meilleure gouvernance de ce système, parce que parmi tous ceux qui sont allés sur les bassines, il y a aussi tout un tas de politiciens qu'on a vus dans les sphères du pouvoir ou proches des gens qui gouvernent une région, qui le gouvernement il y a quelques années, etc. Tous ces gens-là, ils n'ont pas d'autre solution que de proposer de les élire eux-mêmes sans rien changer à ce système. Et je crois qu'il faut aller bien au-delà de ça, que ce ne soit pas l'occasion de faire des coups de pub pour des politiciens, mais de prendre conscience que le problème, il est plus profond.
Je vais arrêter l'interview là parce que je sens que tu es en train de me convaincre. Je vais fuir. Comme disait le barbu, hein, collectivisation des moyens de production et d'échange. Mais en fait, puis j'ai eu une révélation pendant qu'Étienne parlait. En fait, c'est pas Monsieur Arnaud qui fabrique tous ces rouges à lèvres et ces sacs de luxe.
Bizarrement, pas lui. Bizarrement, je pense
j'avais eu un choc à l'époque quand j'avais appris que c'était pas Madame Bettencourt qui fabriquait tous ces rouges à lèvres.
C'est bizarre. Je crois qu'elles ont jamais rien fait de leur vie, ces gens-là. Ceux qui bossent pour eux, ils sont payés quoi, même pas le prix d'un sac pour ce qui est des filles de chez Arco à côté de Châtellerault là, qui bossent pour Vuitton et qui fabriquent les sacs, qui s'étaient mobilisés pour les salaires il y a quelques mois.
Il y a une grève à Verbaudet là en ce moment, les vêtements pour enfants.
Des grèves pour les salaires, de toute façon, il y en a pas mal en ce moment. Pas seulement parce que c'est la période des négociations annuelles obligatoires, mais aussi parce que le problème, il est criant quoi, avec les hausses de prix. Et il faudrait que les salaires, tous, soient alignés sur les prix dans le sens d'une échelle mobile des salaires et que ça s'ajuste au fur et à mesure où les prix montent. Mais ça, c'est une vraie bagarre à mener. Ça ne se fera pas sans une lutte conséquente, parce que ni les patrons ni le gouvernement ne veulent de ça, bien sûr. Mais c'est une nécessité pour le monde du travail.
Bonne manif, joyeux 1er mai.
Merci, de même.
Well, you know, we all wanna change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright.
Les gens commencent à arriver là, on doit être, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure avant le début de la manifestation, mais la place de la liberté, avant on disait place Thiers, Adolphe de son prénom, et un visage et une pancarte connue. Salut Jean-Yves.
Salut.
Et tu t'es entendu à la radio dans l'émission alors?
Oui, et d'ailleurs je tiens à te remercier, contrairement à plein d'autres endroits où on coupe la parole, où on enlève des choses, non, c'est l'intégrale, c'est agréable de ne pas être censuré. Tu prends la télé, tu prends les infos, la violence, on nous montre que celle des manifestants. Bon, alors ils se sont fait un peu piéger parce qu'à Sainte-Soline, ils avaient mis un dispositif et comme les autres, ils ont tiré comme des bœufs mecs en quad là, et compagnie. Ah ben, ça s'est vu, donc ils sont obligés d'en parler un peu, mais on est loin de la réalité, quoi. À Tours, c'est la 12e ou 13e manif. Il n'y a pas eu un moment de violence.
Oui, enfin, à Tours, on est une gentille ville de marchands de chaussettes et de restaurateurs. Hein.
Ça prouve que le mouvement
est ouvrier. Hein.
Non, mais le mouvement reste pacifique. Y compris à Paris, 95% des gens sont des pacifistes. Ce qu'ils veulent, c'est être entendus. C'est pas une catastrophe de vouloir être entendu de nos jours. Non, a priori, ça fait pas partie de l'ADN de certaines personnes. Voilà.
Tu as fabriqué une nouvelle pancarte, mais attends, je comprends pas, tu vas t'en mettre une devant et une derrière, non? Tu vas faire...
Celle-là, je vais me la mettre au cou, et puis l'autre à la main, puis j'ai les casseroles à l'arrière dans le sac. C'est un bordel, je te dis pas.
Ah, vas-y, ta nouvelle production, s'il te plaît.
C'est un peu suite à la discussion qu'on a eue la dernière fois.
Okay.
Voilà, donc en l'espace de 3 mois, je suis passé du statut d'idiot à celui d'extrémiste et de terroriste. Je ne suis rien d'autre qu'un citoyen insoumis dont le seul crime est d'exprimer pacifiquement une opinion divergente de celle de nos gouvernants. Alors, messieurs Macron et Darmanin, je vous le dis haut et fort, votre légitimité n'est pas plus grande que la mienne et je n'aurai donc de cesse de revendiquer mon droit à exprimer ma différence. Votre répression n'y changera rien.
Attends, t'as oublié un adjectif, votre répression ?
Violente. Mais oui, elle est violente, oui. C'est inquiétant. Voilà, ça dérape de plus en plus.
Je suis allé aux casseroles, là, au premier lundi de casseroles qui a eu une nouvelle raclée. Et donc je vais en traînant un peu les pieds le lundi aux casseroles. Et en fait, les gens étaient goguenards. C'était pas du tout une veillée funèbre. En fait, les gens étaient hilars en tapant sur leur casserole, cause toujours, hein, pardon.
Parle à ma tête est malade.
Le pestilent de la répudique parlait à la télé à ce moment-là. Cause toujours, on t'emmerde en fait.
On peut le dire, on peut le dire.
Et bon, il y avait un côté derviche tourneur ou rêve partir, parce que ce bruit, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tout le monde était goguenard et hilar. C'était pareil chez toi?
Ouais, alors, sinon... 40-50 personnes, mais c'est pas grave,
On était 300-400 nous, mais ça faisait du rafut. Hein.
On est obligé de se réinventer, hein, puisque face à nous, il y a des gens qui, eux, bougent pas d'un iota. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On innove, on trouve des solutions. Là, c'est Attac qui nous propose ça, et puis on se retrouve à le faire. On y a été, nous, le premier lundi, on y était lundi dernier. Non, je crois qu'on est dans un moment où, en effet, on en a marre d'entendre des conneries, on en a marre d'entendre des insultes. Je suis navré d'entendre des mecs ministres, comme le maire, qui vont sur des slogans complètement racistes, lamentables, sur l'argent qui partirait au Maghreb, en nous parlant de l'évasion sociale, dont on sait qu'elle ne représente quasiment rien à l'échelle de l'évasion fiscale. Et ça, lui, il est ministre de l'économie, il devrait faire rentrer le pognon. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est de montrer du doigt les Maghrébins. Enfin, c'est honteux.
Alors on le dit à l'envi, hein. Si on donnait aux inspecteurs des finances les moyens de faire correctement leur boulot, la France non seulement ne serait pas déficitaire, son budget, mais on serait amplement bénéficiaire.
Hein,
puisqu'il y a une fois à une fois et demie le soi-disant déficit annuel qui file aux îles Caïmans ou ailleurs sous forme de fraude fiscale. En gros 100 à 150 milliards d'euros qui filent dans les paradis fiscaux. Quelqu'un de la CGT Finances Publiques m'avait expliqué ça, c'est quand ils en serrent un gros, un riche, en fait il se fait pas aligner, ça se termine dans le bureau du ministre.
Oui.
Et dans une discussion...
Donne-moi un petit peu de sous et puis tu peux continuer tes bêtises. Donc voilà, non, ça peut plus durer comme ça, quoi, je veux dire. On le dit souvent, le fric, il y en a, il suffit d'aller le chercher là où il est.
Ouais. C'est ce que scandaient les inspecteurs des impôts. D'ailleurs, petit hommage à Thierry Durin, CGT Finances Publiques, qui nous a quittés il y a quelques semaines. J'ai eu une pensée émue pour lui. Mais lui et ses collègues, je les ai entendus dans une manif pour la première fois. C'est la première fois que je voyais des inspecteurs des impôts en manif qui scandaient.
Des sous, il y en a, aux impôts, nous on sait ça. Des sous, il y en a, aux impôts, nous on sait ça.
Eux le savent encore mieux que nous, mais en effet, ben non, on ne va pas chercher là où est l'argent.
Taxons le capital.
On est bien dans une espèce de système avec une caste de riches qui est entretenue savamment par le pouvoir. Alors on ne sait plus qui est le torchon, qui est la serviette dans l'histoire.
C'est l'œuf et la poule.
Mais oui, oui. Mais
non, mais Macron est l'employé du capital.
Bah oui, ancien chez Rothschild. Mais il y en a marre. Moi, je le dis très clairement. Voilà, même Attal, là, cette semaine, là, qui nous sort une grosse connerie sur les gens qui font les casseroles, ce ne sont pas les gens qui se lèvent tôt et qui vont travailler. On va où, là? On va où? On se moque de qui? Il y a un moment, il faudrait un minimum de décence. Mais ça, même ça, ils l'ont plus, quoi. Ils ont même pas d'amour propre. Ils ont même pas la fierté de représenter la France. C'est triste. Oh, je suis dans une colère, mais t'imagines même pas.
Vaguement un peu, quoi.
Vaguement un peu, voire plus, si affinité.
Bon, allez, je relis ta pancarte. En l'espace de 3 mois, je suis passé du statut d'idiot à celui d'extrémiste, de terroriste. Je ne suis rien d'autre qu'un citoyen avec un C majuscule, insoumis, dont le seul crime est d'exprimer pacifiquement une opinion divergente de celle de nos gouvernants. Alors, messieurs Macron et Darmanin, je vous le dis haut et fort, votre légitimité n'est pas plus grande que la mienne. Ouais, moi j'aurais pas écrit ça. J'aurais dit, vous n'avez aucune légitimité parce que vous avez été élu avec même pas 15% du corps électoral.
Oui, oui, mais bon, ils se targuent d'être légitimes, donc voilà, mais la leur, elle a pas plus de valeur que la mienne, c'est simplement ça que je voulais dire.
Dans un odieux chantage au deuxième tour où on avait le choix entre fascisme et fascisme.
C'est ça.
Et on a eu fascisme, quelle surprise.
Ouais, voilà. On a gagné.
Je n'aurai donc de cesse de revendiquer mon droit à exprimer ma différence. Votre répression violente n'y changera rien.
Oui, oui. Je ne veux pas être extrémiste au sens de dire la police est pourrie.
Non.
Mais dans le corps de la police, il y a des gens qui, soit pour certains, sont contents de taper, soit pour d'autres, obéissent à des ordres qui deviennent intolérables. Les systèmes de répression, la façon dont ils arrêtent les gens de façon arbitraire, les matraques, la bravem, tout ça. Où est-ce qu'on va, quoi? Où est-ce qu'on va? Et il y en a qui disent, ah oui, mais il ne faut pas dire qu'on n'est plus dans un pays démocratique. Moi, je regrette quand la seule solution que nous propose un gouvernement pour faire respecter ses choix, c'est de réprimer dans la violence. Ça en a le goût, ça en a l'odeur. On n'est pas loin de la non-démocratie, voire bon, il est autocrate, il est. Mais comportement problème fascisant. Voilà.
Bon, c'est vrai qu'il y a plein de fachos dans la police, ça se sait. Mais à la rigueur, moi, ce qui me dérange, c'est pas le fonctionnaire de police, que ce soit qui vote, c'est celui qui donne les ordres.
Ah oui,
moi, j'ai
oui,
pas
oui,
de problème avec, vraiment avec les flics. Bon, tu me diras, je suis blanc, donc c'est facile de
c'est
dire
moins,
ça.
C'est moins dur que pour d'autres.
C'est moins dur que pour d'autres. Bon, voilà, pour moi, la police, c'est un outil, et c'est comme dire qu'un marteau est méchant, c'est con. Oui. Un marteau, tu t'en sers pour enfoncer un clou, pour taper sur la gueule de quelqu'un. Pour moi, un flic, c'est pareil. Et ce qui m'a toujours posé ce problème, moi, c'est le ministre.
Darmanin. Quelle catastrophe.
Mais on est bien d'accord sur le fait que le gouvernement envoie des smicards taper sur d'autres smicards ou sur d'autres prolos.
Et la réforme leur enlève à eux aussi les mêmes droits qu'aux autres. Et puis ils ont des femmes, ils ont des enfants, c'est des citoyens. Je ne vais pas dire je les plains, mais en effet, je ne sais pas combien de temps ils vont pouvoir tenir à faire ça.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Je vois pas la police tenir 4 ans comme ça, à cran. Même s'ils embauchent, et alors ça pue la bavure à plein nez, hein. On a vu ce que ça donnait en 86 avec l'affaire Malik Houssekine. D'ailleurs, France Intox nous a dit « Oui, alors, il y a des flics à moto, il y en a un qui conduit, l'autre qui a un grand bâton. » Mais c'est pas des voltigeurs, hein. Attention, hein.
Non, c'est différent.
C'est un bâton recyclable.
C'est ça, ouais. En bambou.
Joyeuse fête des travailleurs à toi.
Oh, bah oui, pour un retraité, hein. Ceux qui bossent, ça leur fait une journée de congé. Moi, c'est une journée comme les autres, le 1er mai, c'est un scandale.
C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Bon reportage à plus.
Bonjour Eric, qu'est-ce qui a marqué sur ton t-shirt?
Il y a marqué taxer les riches.
Oh mais quelle horreur, mais c'est grâce à ces gens très intelligents. Mais si les riches, on les taxe, ils vont s'en aller ben et non. Le pays va s'effondrer.
Non, ils vont pas s'en aller parce qu'ils sont bien contents d'avoir trouvé la France pour élever leurs enfants. Enfin bref, Ils ont profité de l'hôpital, de l'éducation nationale, tout ça, et puis ils ne payent pas d'impôts. Ils vont planquer leur fric au Luxembourg ou ailleurs, ou en Irlande, pour ne pas payer d'impôts. Donc les taxés, c'est ce qu'on appelle le partage des richesses. Voilà.
Quelle horreur.
Quelle horreur.
C'est toi qui l'as conçu, ce t-shirt,
non,
ou tu l'as acheté?
Je l'ai trouvé sur le site La Petite République. LaPetiteRepublique.com, et puis il y a les t-shirts, les sweatshirts, il y a tous les modèles. C'est fait en France, fabriqué en France. C'est du pur coton, enfin... Il me va très bien. Je le portais hier au mariage de mon fils. Le lendemain du mariage, ça a fait un effet bœuf.
Bon 1er mai à toi.
Merci.
Alors je viens à peine de quitter Eric. Notre ami André, notre prof d'histoire géo préféré, vient de faire éruption. Bonjour André.
Bonjour, comment allez-vous?
On s'embrasse.
Ah, je suis content de te voir, mon camarade.
Joyeuse fête des travailleurs,
mon
copain.
Moi aussi, je te souhaite une bonne fête des travailleurs.
Alors nous, on dit pas fête du travail, hein, comme ils ont dit ce matin au journal de France Culture. Fête du travail, hein, c'est pétain. Hein,
C'est pétain, bah oui. Ils en sont restés là. Comme ça, la main dans la main, le patronat et la classe ouvrière, c'est formidable. C'est que ça, un monde harmonieux, avec des riches, des très pauvres. Tout va bien, quoi. Ah là là, mon pauvre, je suis très en colère aujourd'hui. Très, très en colère.
C'est bien, ça te change. Je rappelle que quand on s'est rencontrés en 2003, tu brandissais cette pancarte avec marqué « Raffarin, fils de Pétain ». Tu étais déjà en colère, je crois.
La colère m'a pas quitté, je me dirais que depuis le début des années 80. Je suis pas prophète, hein, mais je voyais un petit peu arriver la grosse merde d'aujourd'hui. Hein. Les gens étaient béats, mais en fait, on voyait déjà les premiers signes du merdier, quoi. Et le monde entier est comme ça aussi, hein. Les Bengalais, les Soudanais, les trucs comme ça, le monde heureux sans lutte de classe, sans vilain communiste totalitaire, c'est formidable, hein. On voit ce que ça a donné. Hein.
Alors, je voulais partager un sentiment avec toi. Tu sais, le premier lundi de casserole, techniquement, on s'était quand même pris une raclée, une de plus. Mais c'était pas une marche funèbre, c'était assez galvanisant, et en rentrant des casseroles, j'ai eu le sentiment qu'on avait basculé dans un autre moment politique, notamment de discrédit total du pouvoir, de ses institutions. Macron fait plus peur. Il y a plein de gens qui n'ont rien à perdre et qui n'ont pas peur de se faire taper sur la gueule. Hein.
Oui, ça c'est une chose nouvelle et de très bon augure. Hein. Effectivement, on a l'impression que les gens n'attendent plus rien de ce gouvernement, de ces politiques véreux. On voit qu'il y a un bon qualitatif dans la prise de conscience et dans la volonté de se battre des gens. Par tous les moyens.
Ils ont mal, hein, les gens, en même temps.
Et ils souffrent, effectivement, c'est le niveau de la merde à augmenter. Hein. Pour l'instant, le niveau de la merde arrive au menton quand il sera au-dessus de la tête. Et je pense que pour beaucoup de gens, la perspective de ce monde sans retraite, esquinté à 65 ans, etc., avec une retraite de merde, là, c'est l'angoisse, là. Et puis, avec les problèmes dans les EHPAD, des trucs comme ça, les vieux maltraités par un personnel sous-payé et insuffisant... C'est trop, là. Cette perspective-là, en France, c'est insupportable. En même temps, ce qui est difficile, c'est que c'est un contexte international, parce qu'il y a un enjeu international. En fait, les yeux de beaucoup de gens sont braqués sur nous. Hein. La classe ouvrière, en Corée du Sud, au Bengale, t'as des gens, leur modèle, ce à quoi ils veulent parvenir, c'est le système de sécurité sociale français. Pour le système de sécurité sociale américain qui n'existe pas.
Je pense que c'est Macron et ses sbires qui sont couverts de discrédit, etc. Mais nous, les Français, on représente... excuse-moi, je ne vais pas faire cocorico, chauvinisme et compagnie, mais en fait...
Nous qui portons le drapeau de la classe ouvrière internationale. Aujourd'hui, c'est nous, c'est-à-dire la classe ouvrière française qui brandit le drapeau des luttes ouvrières internationales pour les travailleurs du monde entier. Et c'est pour ça aussi que Macron, lui, il porte le drapeau des intérêts du grand capitalisme international. Il est commis par le grand capital pour ça. Il tient le front de la lutte des classes internationales. S'il échoue ici, c'est pour ça que la lutte est vachement âpre. S'il échoue ici en France...
Ce sera un très mauvais exemple.
Mais oui, bien sûr. C'est une défaite aussi pour la classe capitaliste internationale. Parce que le coût du travail, c'est le truc fondamental. Qu'est-ce qui produit le bénéfice, qu'est-ce qui produit la richesse du capitalisme? C'est la plus-value, c'est l'exploitation du travail. Donc le coût du travail est un élément essentiel. En France, il faut impérativement baisser le coût du travail de façon à ce qu'il ne reste pas une référence pour les autres pays d'Europe et du monde. La lutte, elle va être difficile et longue. Et je pense qu'elle demandera des méthodes de combat pour l'instant qui ne sont plus utilisées depuis 1917 ou 1793. C'est-à-dire qu'il va falloir que des têtes tombent dans le panier de sûr. Alors bien sûr, c'est symbolique. Hein. Hélas, on ne peut plus fusiller les salopards d'exploiteurs. mais il faudra de toute façon les dégommer. Il faudra les dégommer, ces gens-là se laisseront pas dégommer comme ça. Ils acceptent même pas un système de sécurité sociale digne pour les travailleurs. Tu t'imagines bien que lâcher leur pognon, on peut tout à fait financer un système de protection sociale en France. Il suffit de piquer aux riches, d'une manière ou d'une autre, fiscalement, le pognon. Et ils ont raison. La seule manière de faire tenir un système de protection sociale...
Sans piquer, tout simplement, que les riches payent leurs impôts.
Prélevé correctement et n'échappe pas à l'impôt par la fuite paradis fiscal, etc. Et les arrangements avec le Luxembourg et autres. Bien sûr, on peut... Les capitalistes, ils lâchent pas leur pognon. C'est pas parce qu'ils en ont des montagnes qu'ils veulent en lâcher. On taxerait même simplement 2% du capital que ces gens-là pousseraient des cris d'orfraie. Ils font du bénéfice aujourd'hui comme ils n'en ont jamais fait. On en est là, quoi. On en est là où on a livré des services publics à des salopards qui font un bénéfice d'enfer sur les pauvres, sur des gens qui travaillent.
Si je puis me permettre une remarque, là, tu disais, si les riches ont les taxes, ils vont pousser des cris d'orfraie. Non, ils vont pousser des cris d'ordure. Tu parlais de 1793 tout à l'heure. Ce ne serait pas la première fois que la France donnerait le mauvais exemple à la planète.
Bien sûr. Je rappelle quand même aux gens que nous étions seuls, archi-seuls, dans l'Europe qui était aristocratique, y compris l'Angleterre. Donc en 1793, oui, nous étions très, très seuls. Et c'est d'ailleurs pour ça que la République a dû faire un effort gigantesque pour survivre à l'offensive de la totalité des aristocraties européennes. Nous étions seuls. Si bon, on a été quand même soutenu par les esclaves de nos colonies de Saint-Domingue, etc., qui se sont révoltés contre leurs maîtres, etc. On a été aussi un peu soutenu par la République américaine, mais enfin, du bout des lèvres, ils nous vendaient du blé. Nous étions seuls. Eh bien, on a gagné. C'est-à-dire que les principes d'égalité civile, etc., ont été gagnés. Et l'aristocratie, pendant le 19e siècle, a souffert de la Révolution française. Je pense qu'aujourd'hui aussi, on peut faire très très mal au capitalisme international, à partir de la France.
Tu vois, je reviens à ce lundi de casserole où je suis allé en traînant des pieds, parce qu'on se venait de se prendre une branlée de plus, et où je suis rentré chez moi, en fait, pas exactement optimiste, mais en me disant, on est passé à autre chose, là, il y a un nouveau chapitre.
Tu vois, ce qui me donne du courage aussi, et qui me donne de l'optimisme, c'est qu'il y a des gens qui, opposant au système, étaient séparés, et presque en conflit entre eux. Une jeunesse attirée par l'anarchisme, l'écologie, le truc comme ça, la classe ouvrière plus traditionnelle dans l'héritage du passé, truc comme ça. Et ces gens-là se sont rejoints aujourd'hui et créent un mouvement unique d'opposition. Et ça fait beaucoup de monde. On découvre aujourd'hui que 60% des gens sont contre ce qui se passe aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas étonné. Ces gens-là simplement étaient séparés les uns des autres. C'est-à-dire que bon, bah, y avait les zadistes, des mouvements de protection du monde, de la nature, du vivant, etc. Y avait les féministes, et tous ces gens-là se battaient dans leur coin. Et aujourd'hui, il y a une lutte unique, parce qu'on s'aperçoit que la vie, c'est la vie. Et que tous les combats qui contribuent à cette vie digne peuvent se regrouper et liquider ce système infâme du capitalisme exploiteur. Je trouve ça très encourageant. Les gens prennent conscience de leur force, en fait. Ils sont le nombre, ils sont les gens qui produisent, ils sont les gens qui font les services, sans lesquels rien ne fonctionne. Alors que les gens qui gagnent le pognon, c'est purement parasitaire. Ces gens qui ont le pognon, la bourgeoisie, les, on va dire 10 à 15% de la population de la France, a des revenus pour l'essentiel parasitaires. Sur le corps social, nous sommes 67 millions de Français, là-dessus il n'y a même pas 1 million de gens qui vivent sur l'ensemble, et grassement, sur l'ensemble du corps social, et qui s'enrichit, et qui ne sait plus quoi faire de ses thunes. Il est temps de faire une saignée, une grosse saignée. C'est encore une image, mais il faudra quand même de toute façon les saigner. Une chose extraordinaire, la CFDT, dont les dirigeants sont des sociotraîtres, moi je le dis comme je le pense, c'est des gens qui servent à négocier sans rapport de force et à rien obtenir, mais à tenir en laisse la classe ouvrière en quelque sorte. Mais ces gens-là, leurs adhérents, sont tellement pris à la gorge par la misère et l'exploitation que la direction de ces syndicats ne peut plus ne pas être dans la lutte. FO et la CFDT, c'était des syndicats patronaux, c'était les syndicats préférés du patronat et du gouvernement pour les mêmes raisons. On s'arrange toujours avec ces gens-là. Ben on ne s'arrange plus. Et là, ils sont là dans la lutte. Alors là, donc je suis content pour ça. Dans ces périodes de lutte, comme toi le Front Populaire, la Libération, et trucs comme ça, la social-démocratie, ils sont pris dans le mouvement. Et ils sont obligés.
Parce qu'il y a la base qui pousse au cul. Hein.
Voilà, et ils sont obligés d'avancer. Comme disait mon père, tant qu'ils n'ont pas une épée dans le dos, ils avancent pas, ces mecs-là. Ils sont même les pieds sous le frein. Mais là, ils peuvent pas, sinon ils disparaissent.
Parce que sinon, comme disait ton père, la social-démocratie, hein, c'est la courageuse politique du chien crevé au fil de l'eau.
Ah oui, c'est des gens qui... Oh ben c'est des gens qui, surtout, ne pas lutter, hein, chercher absolument à négocier, même si rien n'est négocié. On négocie toujours. Je vous rappelle qu'après mai 68, après ce grand mouvement, il y a eu négociation. Et la classe ouvrière a obtenu des choses considérables, des augmentations jusqu'à 20%. Pas oublier ça, puis des avantages tout à fait considérables. Mais il y a eu lutte avant. Il y a eu établissement d'un rapport de force. Sans établissement d'un rapport de force... ou d'une menace de lutte, il n'y a pas.
Pour revenir à cette impression de changement d'époque, ça me semble très clair que nos soi-disant dirigeants, là, ils sont en train de chier dans leur froc, en fait. Ils envoient la police, mais les flics, ils tiendront jamais 4 ans comme ça. La nature du bourgeois, c'est d'avoir peur, peur de perdre. Mais alors, dans les périodes dans lesquelles on rentre, là, ils peuvent devenir féroces. Hein. On a vu ce que ça a donné en 40.
Ils peuvent devenir féroces tant que la police tient le coup. C'est-à-dire que si ça commence à branler dans la police, parce que tu remarqueras que dans tous les mouvements, prenons deux exemples, la révolution russe de 1917, la première, celle de février-mars, elle a gagné, le tsar a perdu parce qu'il n'avait plus de cosaques, il n'avait plus de gens pour sabrer le peuple. Et au bout d'un moment, si tu veux, la police, toutes les forces de répression, ces gens ont des origines sociales très diverses, souvent très modestes, hein, mais il y a un moment donné, ils ne peuvent pas taper sur leurs frères, tu vois ce que je veux dire.
Il y a un truc qui s'appelle le droit de retrait d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a 2018-2019, quand ils ont mis les lycéens à genoux, main sur la tête, oui. Là, tu te souviens? Je crois qu'il y a eu un régiment de CRS qui a mis casque à terre, qui a exercé son droit de retrait.
Exactement.
Et on n'en a pas trop fait l'écho.
Non, mais en fait, on n'entend plus parler d'ailleurs, t'en remarqueras. Hein. Les journalistes, en revanche, eux, il n'y a pas de droit de retrait. Hein. Ce sont toujours des prostituées, je parle des grands médias.
Non, mais je veux dire, voilà, des forces de police qui mettent casque à terre, qui exercent le droit de retrait, il y en a en fait. Ils disent, non, en fait, on n'ira pas taper sur la gueule des autres parce qu'on veut pas.
J'ose espérer qu'à un moment de masse du mouvement, la police arrête de
protéger. Ils tiendront jamais 4 ans comme ça, c'est pas possible. C'est un mouvement social chauffé à blanc, des ZAD qui vont se faire partout avec les bassines, des gilets jaunes qui n'ont pas débandé. Il manquerait plus qu'une flambée des cités et puis le tableau serait complet.
Ah ouais.
Jamais la police tiendra 4 ans comme ça.
Je pense qu'à un moment donné, il y a des limites. Pour l'instant, elles ne sont pas encore atteintes. Ce que je crains, c'est qu'ils utilisent des moyens extrêmement dangereux, mortels. La bourgeoisie acculée est capable d'utiliser Darmanin est un assassin. Hein. S'il y avait une justice en France, il passerait en tribunal et on le collerait en tôle au moins pour 20 ans. Hein. Parce que ce type-là est responsable de blessures extrêmement graves et de morts. Si ça avait été un particulier, il ne passerait pas à travers les mailles de la justice. Mais bon, il est archi-protégé. Hein. Et il a un rôle important parce que Macron compte sur lui et sur les forces de police et sur les préfets qui sont des fonctionnaires aux ordres. Hein. Un préfet, il peut sauter du jour au lendemain. Darmanin peut faire sauter un préfet. Hein. Il est ministre de l'Intérieur, il a la main sur les préfets. Et c'est pareil pour les juges. Hein. La magistrature, au moins la magistrature debout, hein, les procureurs, ce sont des gens qui sont sous autorité. Hein. Il n'y a pas d'indépendance de la justice, c'est pas vrai. Du jour au lendemain, un procureur, il est déplacé, il est mis à Limoges, il est... Alors on le met pas au SMIG, hein, on le punit. Pour l'instant, tant qu'on passera en justice, nous, pour un canif, pour détention d'un hôpital numéro 6 à Virol, non mais attends... Moi j'ai peur quand même, j'ai peur, ils ont des engins blindés, il faudrait quasiment des Panzerfaust, des bazookas pour les dégommer. Hein.
Ils sont surtout des fonctionnaires de police à bout de nerfs, à bout de fatigue, et ça pue la bavure à plein nez. Hein.
Ça pue la bavure, oui. Darmanin fait tout pour dire aux policiers, on en veut à votre peau, ces gens-là veulent vous tuer, ils veulent vous tuer. Alors les types, tu t'imagines un peu le sentiment des flics quand ils se retrouvent en face d'une manifestation un peu forte, un peu violente. Ça pue la bavure.
Et voilà les amis, c'est ici la fin du premier volet de ce reportage sur cet historique 1er mai 2023. Seconde partie au prochain épisode de cette émission que vous pouvez également écouter sur notre site polemixetlavoixoff.com. En attendant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio locale préférée, ce n'est qu'un combat, continuons le début, salut.
Terminé. Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.